Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Philippiens. L'Épître aux Philippiens, et nous lirons le premier chapitre, les versets 1 à 26. Paul et Timothée, serviteurs du Christ Jésus, à tous les saints en Christ Jésus qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous de prier avec joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Il est juste que j'aie pour vous de telles pensées, parce que je vous porte dans mon cœur, et que dans mes chaînes, comme dans la défense et l'affermissement de l'Évangile, vous participez tous à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse du Christ Jésus. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité, qu'ainsi vous sachiez apprécier ce qui est important afin d'être sincère et irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Je veux que vous le sachiez, frère. Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, il est devenu manifeste que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. La plupart des frères, confiants dans le Seigneur en raison de mes chaînes, ont beaucoup plus de hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Certains, il est vrai, prêchent le Christ par envie et rivalité, mais d'autres le font dans des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là annoncent le Christ dans un esprit de rivalité. Leurs intentions ne sont pas pures, et ils pensent ajouter quelques tribulations à mes chaînes. Qu'importe. De toute manière, que ce soit sous un faux prétexte ou que ce soit en vérité, Christ est annoncé. Je m'en réjouis, et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon mon ardent désir et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera exalté dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi, Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais est-ce utile pour mon œuvre que je vive dans la chair? Que dois-je préférer? Je ne sais. Je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Je suis persuadé, je le sais, je resterai et je séjournerai auprès de vous tous pour votre progrès et pour votre joie dans la foi. Mon retour auprès de vous, vous donnera ainsi un nouveau et abondant sujet de vous glorifier à cause de moi en Christ Jésus. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que la lettre aux Philippiens commence. C'est beau, non? On pourrait prendre toute la matinée pour parler que de ça. C'est vrai, c'est la grâce et la paix de Dieu que nous voulons, et de personne d'autre, de Dieu. Et voici la prière d'un pasteur qui est aussi la mienne, et je vais vous la lire. Nous allons prier, je vais vous lire cette prière. Maintenant, prions. Seigneur, nous craignons au cours de ce culte de n'entendre que la voix des hommes, celle de nos chants et celle du prédicateur qui expose ta parole. La pensée de quitter ce lieu sans avoir goûté à la communion de ton esprit et sans avoir entendu son témoignage souverain à notre cœur nous effraie. Nous te confessons nos péchés, nous t'implorons du fond de notre misère. Nous avons besoin de toi. Viens, aie pitié de nous. Nous ne pouvons qu'ériger l'autel. C'est à toi qu'il appartient. d'envoyer le feu. Amen. Nous allons ensemble, dans cette dernière partie de l'année, jusqu'au mois de décembre, prendre un peu de temps pour survoler l'Épître aux Philippiens. Et c'est aujourd'hui la première prédication de ce petit survol. Une épître qui est riche en enseignements, tellement riche que nous ferons vraiment comme un hélicoptère qui survole et de temps en temps va se poser pour prendre un élément, repart et va se reposer ailleurs pour saisir quelques richesses de cette épître. Et je vous encourage dans ces prochaines semaines à lire l'Épître aux Philippiens entièrement. Ce n'est pas très long, vous pouvez la lire dans un temps relativement court, mais à la lire en entier, plusieurs fois, pour qu'on puisse en être totalement imprégné, que nous puissions saisir le message que l'Éternel envoie par ce courrier aux Philippiens, mais aussi en fait aux Neuchâtelois. Alors afin de mieux situer l'auteur et la lettre guidée par Dieu, eh bien je vous propose d'écouter un petit reportage fictif, mais dont les faits sont réels. Voici ce reportage. Un peu plus de 10 ans avant d'écrire cette lettre, Paul est parti d'Antioche avec Silas, aussi appelé Sylvain d'ailleurs, pour son deuxième voyage missionnaire. Il passe par différentes villes et rencontre à Lystre Timothée qu'il prend avec lui. « Je m'appelle Luc, je suis médecin et c'est à Troas que je rejoins l'équipe missionnaire. » Une nuit, Paul fait un rêve tout à fait étonnant qui nous a poussé à aller en Europe. Et nous nous sommes donc dirigés vers Philippe. Philippe qui était une des plus grandes villes, enfin une grande ville romaine à ce moment-là. Paul a l'habitude de se rendre à la synagogue pour prêcher. Nous avons donc cherché une synagogue. N'en trouvant pas, nous sommes allés au bord de la rivière où, selon leur habitude, les Juifs se retrouvent pour la prière. Là, près de la ville de Philippe, nous rencontrons des dames réunies. L'une s'appelle Évodie, l'autre Saint-Tiche, ou encore Lydie, la marchande de pourpre. Avec l'équipe, nous nous sommes assis et avons parlé avec elle. Et là, Dieu a ouvert le cœur de Lydie, qui accepte le message de l'Évangile et se fait baptiser avec toute sa famille. C'est la première famille de l'église de Philippe. Quelques jours plus tard, alors que j'étais avec des amis, chez des amis avec Timothée, Paul et Silas sont entraînés sur la place publique, mis à nu, battus par des verges et ensuite jetés en prison pour avoir chassé un démon. Paul, lorsqu'il écrit la lettre aux Philippiens, était aussi en prison, à Rome. Mais revenons à Philippe, dans la prison. Paul et Silas, dans la difficulté, mais contents dans le Seigneur, chantent dans leur cachot. Et tout à coup, les portes s'ouvrent, tous les prisonniers sont détachés suite à un tremblement de terre, et le cœur du gardien, saisi par la grâce de Dieu, s'ouvre à Christ et est détaché des chaînes de son péché. C'est en fait la deuxième famille qui rejoint l'église de Philippe. Pressés par les autorités, nous devons quitter la ville, laissant l'église naissante seule. Mais Dieu a commencé une œuvre dans cette ville. Et il la poursuivra. L'église de Philippe, formée de Lydie, du geôlier et d'autres, ont à cœur de soutenir financièrement Paul par plusieurs dons. L'église de Philippe, formée par Lydie, du geôlier et d'autres, ont à cœur de soutenir financièrement Paul par plusieurs dons. Et 5 ans après les premiers événements à Philippe, Paul et Timothée vont visiter l'église de Philippe. Et 10 ans plus tard, voici cette lettre que nous lisons, qui est envoyée de Rome, apportée par Épaphrodite, qui est allé à Rome apporter un don à Paul de la part des Philippiens, et il retourne auprès des Philippiens avec la lettre de Paul qui remercie ces Philippiens de leur soutien et qui leur parle de l'œuvre de Christ. Voici le petit reportage de notre ami Luc le médecin, qui nous a permis de nous remettre un peu dans le contexte de cette lettre aux Philippiens. Pourquoi elle est envoyée aux Philippiens et de qui? Et cela nous a permis de comprendre aussi des liens étroits et affectueux, en fait, qui unissent Paul à l'église de Philippe. Jésus-Christ est le centre de tout ce que Paul écrit inspiré par Dieu ici dans cette lettre, comme nous le verrons. Et ce sont des serviteurs de Jésus-Christ, vous le voyez au premier verset, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, qui écrivent en fait à des saints de Jésus-Christ, toujours dans le premier verset, vous pouvez le lire. Et que souhaitent-ils ? Eh bien la manifestation de l'œuvre de Christ. Et la manifestation de l'œuvre de Christ, c'est la grâce et la paix. Et là nous avons ces deux premiers versets qui introduisent cet épître aux Philippiens qui sont beaux. Je vous invite toujours à garder vos Bibles ouvertes pour que vous puissiez suivre aussi ces textes. Dans les 26 premiers versets de cette lettre que nous survolons, nous allons aujourd'hui faire trois arrêts où nous nous délecterons de l'œuvre de Christ. Nous observerons quelques caractéristiques de cette œuvre. Le premier nous permettra d'admirer une œuvre persévérante. L'œuvre de Christ jusqu'au bout. Ce sera notre premier point. Le deuxième arrêt dans cet épître, dans ces 26 versets, nous indiquera que l'œuvre de Christ se fait en toutes circonstances. L'œuvre de Christ se fait en toutes circonstances. Et notre troisième arrêt nous indiquera que l'œuvre de Christ, c'est la vie. L'œuvre de Christ, c'est la vie. Relisons donc ensemble les versets 3 à 11 pour faire notre approche pour notre premier arrêt dans ce survol. Verset 3 jusqu'au verset 11. Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous de prier avec joie, à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Il est juste que j'aie pour vous de telles pensées, parce que je vous porte dans mon cœur, et que dans mes chaînes, comme dans la défense et l'affermissement de l'Évangile, vous participez tous à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse du Christ Jésus. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité. Qu'ainsi vous sachiez apprécier ce qui est important, afin d'être sincère et irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Et le verset clé que nous prendrons pour cette partie aujourd'hui, c'est le verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Jusqu'au bout. En fait, l'œuvre de Christ se fait dans sa totalité ou pas du tout. L'œuvre dont il est question ici a été commencée par quelqu'un. C'est important à saisir. Hein. L'œuvre qui est présentée ici a été commencée par quelqu'un et il est important de comprendre que toute l'œuvre dépend de celui qui l'a commencée. Quelqu'un l'a commencée et toute l'œuvre dépend de celui qui l'a commencée. Ce quelqu'un, celui qui a commencé, ce n'est pas un homme pour faillir, pour s'arrêter ou n'avoir pas la capacité de terminer. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Celui qui ne change pas, qui est fidèle, qui a tout créé, à qui rien n'est impossible. C'est lui qui achèvera l'œuvre qu'il a commencée. L'achèvement de l'œuvre bonne qui a commencé en eux ne dépend pas des Philippiens, ni des Neuchâtelois d'ailleurs, mais de Dieu lui-même. Et Paul peut affirmer cela parce qu'au verset 7, il leur dit de quelle grâce les saints en Jésus-Christ de Philippiens sont tes bénéfices. Il leur dit, c'est parce que vous participez tous à la même grâce que moi. Et quelle est cette grâce? Eh bien, par exemple, dans Tite, nous pouvons lire une explication. Il y en a d'autres ailleurs, mais dans Tite, par exemple, au chapitre 3, versets 3 à 7, il est dit ceci, qui explique ce qu'est cette grâce. « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de désir et de passion, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, odieux, et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Dieu transforme ce qui est impur en quelque chose de pur par le bain de la régénération. Et nous avons en fait quantité d'exemples dans la Bible qui nous montrent de quelque chose qui était impur, qui est transformé en quelque chose qui est pur. On va prendre un exemple dans le livre de l'Exode, chapitre 15, les versets 22 à 25, où il est dit ceci. Là, on revient en arrière, sorti d'Égypte. « Moïse fit partir Israël de la mer des joncs. Ils prirent la direction du désert, de Chour, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. D'où le nom de Mara qu'on lui donna. Le peuple murmura contre Moïse, « Que boirons-nous ? » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un certain bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. L'eau de Mara nous représente, en fait. Nous sommes corrompus par le péché, ne pouvant devenir purs par nous-mêmes. Le bois que Moïse jette dans l'eau représente la croix de Christ, la rédemption qu'il a accomplie pour ses élus. L'eau devient douce. La vie transformée et régénérée ne redeviendra jamais amère, car celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Malheureusement, c'est vrai, des déchets encore de nos péchés viennent troubler cette eau, mais sa nature a été changée. Et lorsque Dieu nous adopte comme ses enfants, même si nous n'agissons malheureusement pas toujours selon ce statut, c'est extraordinaire, enfants de Dieu, vous imaginez. Eh bien, même si nous n'agissons pas toujours selon ce statut, nous ne cessons pourtant pas d'être ses enfants. Voilà pourquoi il est dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, dans Romains 8, 38 et 39. Et la question que l'on peut se poser ce matin, est-ce que je suis encore une eau amère? Ou est-ce que la nature a été changée? Nous ne pouvons pas devenir, en fait, nous-mêmes une eau douce. Seul Christ peut le faire. Et pour saisir son œuvre, nous sommes appelés à nous repentir et à croire en l'œuvre de Christ. Et ainsi, notre eau amère sera transformée en eau douce. Et lorsque Dieu a commencé en nous cette œuvre, cela nous pousse à continuer à nous repentir, car la repentance accompagnée de la foi fait partie de la vie chrétienne authentique. On en a parlé tout à l'heure en disant que ça fait partie de l'ADN de cette nouvelle vie qui demande à Dieu de rendre son nom propre chaque fois qu'elle est troublée par un péché. La repentance et la foi activent quelque part le filtre du pardon de Dieu qui purifie notre eau. Après le quoi, de quoi parle-t-on ici? Réfléchissons à comment se vit cette œuvre qui a été commencée par Dieu, dont il est question dans ce texte de Philippiens. Paul, après avoir manifesté sa confiance dans l'œuvre de Dieu dans le cœur des Philippiens, leur dit qu'il prie pour eux. Si vous cherchez un exemple de prière pour prier pour les autres, vous ne savez pas quoi demander à Dieu, venez dans Philippiens. Et reprenez les versets 9 à 11 que vous pouvez prier pour les autres. Et dans cette prière, nous pouvons observer plusieurs éléments qui nous indiquent comment vivre ce salut, en quoi progresser, quel est son but. Voici 3 éléments que Paul demande à Dieu dans le verset 9. Il demande que l'amour abonde de plus en plus. Que l'amour abonde de plus en plus. Il demande que l'amour abonde en connaissance. Et il demande que l'amour abonde en sensibilité ou en intelligence. Ceci résume en fait la manière de vivre sincèrement l'œuvre que Dieu a commencée. Lorsque les pharisiens demandent à Jésus quel est le plus grand commandement, quel est le plus grand commandement ? Jésus indique l'amour total pour Dieu et l'amour pour son prochain. Pourquoi Paul demande-t-il que l'amour des Philippiens abonde en connaissance, ici dans ce texte ? Eh bien, plus nous connaissons les bons traits de caractère d'une personne, plus nous l'aimons. Quand on apprend à connaître quelqu'un et qu'on découvre chaque fois un élément de son caractère qui est beau, cela, quelque part, augmente notre amour pour cette personne. Alors c'est vrai que pour ceux qui sont autour de nous, parfois, on découvre des traits de caractère qui sont moins beaux. Puis là, ben, on accuse un peu le coup, comme on dit. Mais avec Dieu, il n'y aura jamais quelque chose qui ne sera pas beau. Il est parfaitement bon, en fait. Tout ce que nous découvrons en Dieu est bon. Donc plus nous le connaissons, plus nous l'aimons. Avec Dieu, il n'y a que de bons traits de caractère. Et en apprenant à le connaître, nous ne pouvons que l'aimer plus. Voilà pourquoi Paul demande pour les Philippiens que leur amour augmente en connaissance. Et deuxièmement, pourquoi Paul demande-t-il que l'amour des Philippiens abonde en vraie sensibilité ? Ah bon, le terme traduit par sensibilité dans la traduction de la Colombe est traduit dans d'autres versions par intelligence, tact affiné, compréhension parfaite ou encore amour dans tout jugement. Ça signifie que Paul ne demande pas aux Philippiens de devenir plus sentimental, détaché de la réalité. C'est ce qu'on pourrait peut-être penser quand on lit cette notion de sensibilité. Paul demande dans sa prière, en fait, un amour capable de juger une situation étant compatissant tout en restant juste. Alors bon, en un seul mot, ce n'est pas facile. Donc là, il utilise le terme sensibilité. Afin que, comme il le dit ensuite, d'être capable de discerner ce qui est important, d'être sincère et irréprochable. Et Paul demande que cet amour augmente de plus en plus chez les Philippiens et par extension chez les Neuchâtelois. Que cet amour augmente, augmente, augmente. Il n'y aura jamais trop d'amour, les amis. Pas besoin d'avoir peur. N'ayez pas peur. On ne va pas éclater d'amour. On peut en être toujours plus rempli. Et c'est ça que l'apôtre Paul demande. Ne dédaignons pas l'amour les uns pour les autres. Ne dédaignons pas l'amour les uns pour les autres. Car c'est une preuve de notre salut et c'est un témoignage pour le salut des autres. Si notre amour n'augmente pas les uns pour les autres, eh bien cela doit nous faire réfléchir quant à notre salut. Et si notre amour n'augmente pas les uns pour les autres, quel sera le témoignage pour le salut des autres ? C'est la caractéristique du chrétien, sa marque, son outil le plus précieux et le plus puissant. Pourquoi utiliser d'autres outils ? Est-ce que vous mettez... Vous avez déjà fait la vaisselle ? Oh, on est de la vaisselle maintenant. Même à la vaisselle. Est-ce que vous mettez, en fait, de l'huile de friture pour faire la vaisselle ? Mais non ! Vous utilisez un bon produit de vaisselle. Est-ce que vous utilisez une ponceuse pour fendre du bois ? Mais non, évidemment pas. Vous prenez une bonne hache bien aiguisée, par exemple. Est-ce que vous venez avec des revendications pour manifester le salut reçu? Est-ce qu'on vient, on revendique des choses pour le salut reçu gratuitement de Christ qui a payé le prix fort? Mais non, on ne vient pas avec revendication pour manifester ce salut. Nous venons avec l'humilité, avec dans la reconnaissance, prêt à tout donner. Et l'outil que nous utilisons, selon la parole de Dieu, c'est l'amour. L'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour les autres. C'est ainsi que nous manifestons notre salut. C'est ainsi que nous témoignons de ce salut pour les autres. Voilà pourquoi l'apôtre Paul demande que cet amour augmente, augmente, augmente. Et après le quoi et le comment, arrivons au pourquoi. Pourquoi Dieu accomplit-il cette œuvre ? Eh bien, Dieu, par l'Esprit Saint, par Paul, nous donne la réponse au verset 11. « Rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. » Dieu accomplit une œuvre dans ses élus pour qu'il porte du fruit. Et en fait, ce fruit sera à la gloire et à la louange de Dieu. À la gloire et à la louange de Dieu. Nous n'avons pas forcément à nous occuper des fruits. Nous avons à nous occuper à grandir dans l'amour, en fait. Le fruit, c'est lui qui le donne. Paul, par sa vie, nous montre un homme qui a toujours cherché à pointer vers ce qui est important, sans rien cacher de ce que ça voulait dire, de lutte et de difficulté. Mais réfléchissons un instant. Paul, un homme comme vous et moi, a écrit une bonne partie du Nouveau Testament guidé par le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez déjà pensé à Paul? Si vous le rencontriez, qu'est-ce que vous lui diriez? Si vous rencontriez Paul, vous lui diriez quoi? Est-ce que vous auriez envie de le féliciter? Ou est-ce que vous auriez peut-être envie de fuir parce que son attitude vous reprend? On n'a pas trop envie d'être avec lui parce que quelque part, ça me reprend. Ou bien, est-ce que vous auriez envie d'aller auprès de Dieu, de réclamer parce que pourquoi lui a reçu cette grâce et pas moi? Eh bien, que Dieu nous donne la grâce d'avoir l'envie de louer Dieu et de lui rendre gloire. Lui qui a été si bon en donnant sa parole et de remercier et d'encourager Paul d'avoir répondu à l'appel d'une manière si intègre, et nous pouvons le faire de manière affectueuse. Elle dira à Paul, mais nous sommes tellement reconnaissants que tu as répondu à l'appel de Dieu et glorifié Dieu pour cette parole qui a été donnée. Eh bien voilà, comme nous pouvons agir envers toute personne à qui Dieu fait une grâce particulière pour le bien de ses élus. C'est de glorifier Dieu, de le remercier et simplement d'encourager cette personne d'avoir été fidèle et d'utiliser le don que Dieu lui a donné. Et Paul cherchait tellement la gloire de Dieu qu'il exprime que même si tout ne va pas bien pour lui, que même si des personnes agissent contre lui, il est heureux de voir que l'évangile progresse. C'est notre deuxième point, l'œuvre de Christ en toutes circonstances. Lisons les versets 11 et suivants, jusqu'au verset 20. Verset 12, pardon. « Je veux que vous le sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Petite pause, donc ce qui lui est arrivé, c'est quoi? Ben, qu'il a été emprisonné. Il est à Rome en prison. Continuons. « En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, il est devenu manifeste que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. La plupart des frères, confiants dans le Seigneur en raison de mes chaînes, ont beaucoup plus de hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Certains, il est vrai, prêchent le Christ par envie et rivalité, mais d'autres le font dans des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là annoncent le Christ dans un esprit de rivalité. Leurs intentions ne sont pas pures, et il pense ajouter quelques tribulations à mes chaînes. Qu'importe. De toute manière, que ce soit sous un faux prétexte ou que ce soit en vérité, Christ est annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Car je sais que cela tournera mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon mon ardent désir et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera exalté dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. C'est le verset 12 qui va donner la clé pour ce deuxième arrêt dans cette deuxième région de l'Épître aux Philippiens. Je veux que vous le sachiez, frère, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. L'œuvre de Christ en toutes circonstances. Et qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important pour l'apôtre Paul ici? Quel est son travail à Paul? Son travail, c'est être évangéliste, d'annoncer l'Évangile. Et ce qui est le plus important pour lui, c'est que l'Évangile de Christ progresse, quelles que soient les circonstances. Comprenez? C'est son job! C'est ce qu'il désire! C'est que l'Évangile progresse, quelles que soient les circonstances. Et le progrès de l'Évangile se fait lorsque les personnes entendent parler de Christ et de son œuvre. Intéressant quand même de se rendre compte qu'ici, ce qui est important pour l'apôtre Paul, ce ne sont ni les chaînes, il était enchaîné, ce ne sont ni la fatigue, ni le jugement devant l'empereur, qui devait quand même mettre une certaine pression, ni la qualité de la nourriture, ni l'éclairage, ni quoi que ce soit d'autre que Christ qui intéressait Paul. Ce qui est important pour lui dans sa situation, c'est de vivre pour Christ. Et tous les gardiens de prison l'ont compris, car Paul peut dire que c'est évident pour tous qu'il est dans les chaînes et vit pour Christ. Tout le palais, quand on parle de prétoire, c'est partie du palais de l'empereur, hein, tout le palais sait que Paul vit dans les chaînes pour Christ. Quel est notre travail? Quel est votre travail? Chacun a un métier, c'est vrai. Et nous sommes appelés à exercer notre métier avec excellence, pour manifester la gloire de Dieu dans notre travail. C'est important. Et si nous ne sommes pas tous des évangélistes, nous sommes tous des témoins, des enfants adoptés du Dieu éternel pour ceux qui sont en Christ. Et la question que nous pouvons prendre avec nous et que l'apôtre Paul, quelque part, nous pose parce qu'il dit ici dans cette parole, est-ce que ceux qui me côtoient tous les jours au travail, à l'école, dans le voisinage, savent-ils que je suis un témoin de Christ? Si quelqu'un demandait à celui qui était toute la journée dans le même bureau, sur le même chantier, dans la même classe, si on lui demandait « pour qui nous vivons ?» Que répondrait-il? Est-ce qu'il dirait que nous désirons le progrès de l'Évangile? Oui, nous ne sommes pas toujours en train de parler de Jésus-Christ. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand nous sommes dans un travail, nous cherchons l'excellence de notre travail. Nous nous concentrons donc dans ce que nous faisons, et c'est important. Mais parlons-nous de Jésus-Christ lorsque l'occasion se présente? Cherchons à utiliser les opportunités en vivant de manière différente du monde, dans notre langage, notre attitude et notre comportement. Est-ce que nous vivons d'une manière différente du monde? Paul pouvait dire, même arrêté et en prison, que ce qui arrivait contribuait au progrès de l'Évangile, parce qu'en fait les circonstances ne l'arrêtaient pas dans son témoignage, mais lui donnaient d'autres opportunités de vivre l'Évangile. Il a rencontré des rois, le roi Agrippa par exemple, ou l'empereur romain étant de soldats ou de gardes, qu'il n'aurait pas rencontré s'il n'avait pas été arrêté. Comment faire progresser l'Évangile? Eh bien, un premier aspect pour faire progresser l'Évangile, c'est de ne pas se faire progresser soi-même. On ne peut pas faire progresser l'Évangile et en même temps faire progresser sa propre personne. Il faut qu'il croisse et que je diminue, disait Jean-Baptiste. On ne peut pas faire progresser l'Évangile et en même temps faire progresser sa propre personne. Il faut qu'il croisse et que je diminue, disait Jean-Baptiste. L'important pour Paul, ce n'était pas d'être reconnu comme un super apôtre, comme un martyr que les gens prennent en pitié pour toutes les souffrances qu'il aurait par amour pour Dieu. Non, Paul ne se préoccupe pas de lui-même, il se préoccupe du progrès de l'Évangile. Car il ne vit pas pour lui, mais pour Christ. C'est ça son désir. C'est vrai que ce matin, je pense que personne ici ne s'est réveillé au chant du coq. Ou peut-être. Mais il fut un temps où c'était le chant du coq qui réveillait les gens. Alors, si on se fait réveiller par un coq, est-ce que son style, sa mélodie, a une importance? Est-ce qu'il y ait deux coqs qui se battent pour que l'un chante en premier ou l'autre est important pour nous qui nous faisons réveiller par le coq? Mais non! Le but, c'est qu'il chante et qu'on se réveille. C'est important, non? L'essentiel, c'est qu'il nous réveille à la bonne heure. Eh bien, pour Paul, l'essentiel est que l'Évangile soit proclamé. Et que certains le fassent par jalousie ou même par dénigrement pour Paul, cela n'a pas d'importance pour lui. L'Évangile est annoncé. L'essentiel est qu'un coq chante pour le réveil. Paul nous aide ainsi à nous réjouir lorsque nous voyons des personnes d'autres églises parler de l'Évangile de Jésus-Christ. Car l'essentiel, c'est que Christ, le Christ de la parole de Dieu évidemment, soit annoncé. même si les motivations ne sont pas toujours les meilleures, si Christ, la parole de Dieu, est annoncé, nous sommes appelés à nous en réjouir. Parce que Paul ne cherchait pas à se défendre, il défendait la cause de Christ. Nous ne cherchons pas à nous défendre, ou à défendre notre Église, ou à défendre notre système de croyance. Nous désirons que Christ soit annoncé. Nous avons tant d'exemples chrétiens persécutés qui ne ripostent pas face aux injures qui leur sont faites. Ils ne cherchent pas à se défendre pour eux-mêmes, mais ils cherchent à défendre la cause de Christ en lui restant fidèles quoi qu'il leur en coûte. Et quel effet l'exemple de Paul a-t-il ? Eh bien, c'est que plusieurs ont plus de hardiesse d'annoncer l'Évangile en voyant Paul qui, malgré les chaînes, reste fidèle. Et pour nous, c'est la même chose. Lorsqu'on voit des personnes qui, malgré la difficulté ou la prison, restent fidèles, ça nous stimule. On dit, mais attends, Dieu prend soin de lui. C'est le même pour moi. Il prendra soin de moi dans ma situation, qui n'est pas toujours facile non plus. Paul nous dit qu'il désire n'avoir honte de rien. Son objectif est que Christ soit exalté dans son corps. Oui, vous avez bien entendu, dans son corps. Pas seulement par son esprit, ses pensées, mais par son corps. Comme Paul, cherchons à n'avoir honte de rien devant Dieu et que notre corps exalte le Seigneur avec les forces qu'il nous donne. Ne cherchons pas à l'exalter avec des forces que nous n'avons pas. Mais ne gardons pas non plus les forces que nous avons pour ne pas l'exalter. Paul nous motive à nous réjouir de l'avance de l'Évangile et de vivre de manière à ne pas avoir honte devant Dieu et que chacun reconnaisse que Christ vit en nous. C'est une phrase qui résume ce point, je vais la relire. Paul nous motive à nous réjouir de l'avance de l'Évangile, de vivre de manière à ne pas avoir honte devant Dieu et que chacun reconnaisse que Christ vit en nous. Et nous ne pouvons pas produire cela par nous-mêmes. Il nous faut être remplis par quelque chose, ou mieux dit, par quelqu'un. Quelqu'un d'externe à nous. Et c'est ce que nous allons voir dans notre troisième point. L'œuvre de Christ, c'est la vie, justement. Verset 20, nous revenons au verset 20, deuxième partie. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera exalté dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais est-ce utile pour mon œuvre que je vive dans la chair? Que dois-je préférer? Je ne sais. Je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. J'en suis persuadé, je le sais. Je resterai, je séjournerai auprès de vous tous, pour votre progrès et pour votre joie dans la foi. Mon retour auprès de vous vous donnera ainsi un nouveau et abondant sujet de vous glorifier à cause de moi en Christ Jésus. Voilà, nous sommes repartis dans cet épître aux Philippiens et nous arrivons, et le verset qui va nous intéresser plus particulièrement maintenant, c'est le verset 21. Car pour moi, Christ est ma vie et la mort met un gain. Pour Paul, Christ, c'est le moteur, c'est la vie, c'est le but. Il dit aux Galates, on a déjà entendu souvent ce passage, mais qu'il nous pénètre, on l'a d'ailleurs appris par cœur, « Je suis crucifié avec Christ. » Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Dans la chair, dans son corps, donc déjà sur cette terre, Christ est notre vie. Et cela ne s'arrête pas là, puisque c'est une vie éternelle. Jésus lui-même le dira dans Jean 11, « Moi je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra même s'il serait mort. » Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? C'est Jésus qui dit cela. Christ donne la vie à tous ses élus et il ne la remet jamais en doute. Christ est notre richesse. Et Watson rapporte, alors là, il faut qu'on revienne en arrière dans l'histoire, c'est dans l'histoire grecque, de Plutarque. Plutarque qui nous parle de la femme de Phocion. Bon, je ne vais pas faire tout le développement là, mais on va se concentrer sur ce qu'il a demandé à la femme de Phocion. Il a dit, mais où, révèle-moi le lieu où tu caches tes bijoux. Et elle lui répond, mon mari et ses triomphes sont ma richesse. De même, si vous demandez à un chrétien où se trouvent ses richesses, il répondra, Christ est toute ma richesse. Si l'on demande à un chrétien où est sa richesse, Christ est toute ma richesse. Voilà pourquoi certaines personnes sont capables de tout perdre pour gagner Christ. Étant donné que Christ est sa richesse et que sa pleine manifestation se fera dans la gloire au ciel, Paul est pressé des deux côtés, hein, pressé entre le ciel et sa mission. Alors pour mieux saisir cette tension, j'aimerais prendre quelques instants pour réfléchir au ciel avec une petite méditation que je vais vous lire. Ici-bas, nous ressemblons à Israël dans le désert qui n'avait récolté qu'une seule grappe de la vallée d'Escol. Dans la gloire, nous serons au milieu du vignoble. Ici-bas, nous devons nous contenter de la manne qui tombe comme des graines de coriandre. Au ciel, nous mangerons du pain céleste, de la farine du royaume. Ici-bas, nous avons parfois des convoitises, des désirs insatisfaits. Au ciel, les convoitises seront mises à mort et les désirs satisfaits. Tous nos besoins seront pleinement accordés et toutes nos capacités trouveront le plus doux emploi dans ce monde éternel de joie. Nous expérimenterons une pleine et continuelle union avec Christ. Surtout, nous y partagerons sa gloire pour l'éternité. Nous le verrons, dit Jean. Oui, et il continue en disant, nous serons comme lui, car nous le verrons tel qu'il est. Amis chrétiens, préparez-vous pour le ciel, car dans très peu de temps, vous serez débarrassés de vos épreuves et de vos difficultés. Votre tête, aujourd'hui douloureuse, sera sainte de la couronne de gloire. Votre pauvre cœur, si plein de désirs, trouvera son repos et sera pleinement satisfait alors qu'il s'appuiera sur la poitrine de Christ. Les mains qui aujourd'hui peinent n'auront plus de labeur difficile à exécuter, autre que de jouer de la harpe de louange. C'est une image. Les yeux que les larmes emplissent aujourd'hui ne pleureront plus. Vous contemplerez avec un ravissement ineffable la splendeur de celui qui occupe le trône. Plus encore, vous siégerez avec lui sur son trône. Il est le roi des rois et vous régnerez avec lui. Il est sacrifice d'après l'ordre de Melchisédek, mais vous serez aussi un sacerdoce royal avec lui. Réjouissez-vous, car vous participerez au triomphe de sa gloire. En fait, cette méditation souligne que mourir est un gain, un bénéfice, parce que la mort physique ou le retour du Christ débarrasse le chrétien de tous les restes des conséquences du péché. La mort est un gain, c'est pour ça qu'il dit cela l'apôtre Paul, c'est un bénéfice, hein, parce que la mort physique ou le retour du Christ débarrasse le chrétien de tous les restes des conséquences du péché. D'un côté, nous avons donc la gloire avec Christ, le ciel, et de l'autre, nous avons la mission de Paul envers ses auditeurs. Et c'est vrai que ce texte ici m'est devenu très proche en 2005. En 2005, j'ai été piqué par des abeilles, j'ai réagi très fortement, et je me suis très clairement senti partir vers mon Seigneur. Et je me réjouissais. J'allais vers lui! Mais dans sa volonté souveraine, il a décidé qu'il fallait que je reste encore. Il a voulu que je continue de vivre ici-bas. C'est pour cette raison que je me tiens devant vous maintenant. M'en aller auprès du Christ aurait été bien meilleur. Mais vivre ici maintenant est utile parce que Dieu le veut ainsi. Je n'ai encore pas terminé la mission qu'il m'a confié. Et si toi, tu es vivant maintenant, ici, c'est parce que ta mission n'est pas terminée non plus. Oh, nous ne voyons pas toujours quand Dieu nous utilise et pourquoi il nous utilise. J'ai souvent été encouragé par des personnes qui ne l'ont même pas remarqué. Parce que Dieu ne nous demande pas de nous accrocher à une productivité, mais à la fidélité. Cette fidélité à l'image de celle de Paul qui réjouissait les Philippiens, qui leur donnait un sujet de se glorifier en Christ, car leur prière avait été entendue et ils participaient, ils étaient participants à l'œuvre de Dieu. Quel est l'effet d'une vie pour Christ ? L'effet d'une vie pour Christ, c'est que celui qui croit pour Christ, qui croit et vit pour Christ, produit de la joie et de l'encouragement des frères et sœurs dans la foi. Est-ce que votre vie en Christ pousse les frères et sœurs dans la foi au progrès, à la joie de voir les prières exaucées ? Celui qui peut dire « Christ est ma vie » et qui cherche par sa grâce et sa force à vivre selon cette merveilleuse vérité, cette personne certainement sera un puissant encouragement pour tous ceux qui veulent grandir avec Christ. Ce matin, nous avons fait un survol de ces 26 premiers versets de l'Épître aux Philippiens. Qu'allons-nous retenir ? Alors, je vous propose de fixer dans nos pensées les trois versets clés que nous avons vus. Le premier, je suis persuadé que celui qui a commencé une œuvre bonne en vous en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Christ Jésus. C'est un puissant encouragement. Que vous puissiez prendre cela avec vous. Ce qu'il a commencé, il le terminera. Deuxièmement, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. C'est un objectif noble de Paul. Que les circonstances de Dieu, que Dieu permet, n'empêche pas l'œuvre qu'il veut faire au travers de nous. Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Et troisièmement, car pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Notre trésor, c'est Jésus-Christ. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous sommes dans la reconnaissance de pouvoir lire une lettre qui a été écrite il y a un peu plus de 1960 ans. Seigneur, nous sommes reconnaissants parce que cette lettre, tu l'as donnée dans ta parole aussi pour les Neuchâtelois. Et donc, il est tellement bon de nous rappeler tes promesses. Il est tellement bon de saisir, Seigneur, la grâce que tu nous fais en Jésus-Christ. De saisir que ce que tu commences, tu le termines. Il n'y a aucun travail que tu commences que tu ne termines pas. Aucun. Parce que toi, tu en as la force, tu en as la puissance. Tu vois combien de travaux nous commençons et nous ne terminons pas. Soit parce que nous n'avons pas envie, soit parce que nous n'avons pas les forces, soit parce que nous n'avons pas les moyens, soit parce que nous l'oublions. Mais Seigneur, tout cela, bien, ne te concerne pas. C'est tellement bon de nous appuyer sur toi. Oh Seigneur, merci parce que tu nous donnes aussi cette grâce de comprendre petit à petit dans nos vies, et nous le comprenons aussi par ta grâce, en grandissant en maturité, qu'il n'y a pas une seule circonstance que tu permets qui enlève un moyen quelconque dans ta main de faire progresser l'Évangile. Seigneur, nous sommes souvent dépendants de ces circonstances, pour notre bonne humeur, pour nos objectifs de vie, pour prendre des décisions. Mais Seigneur, j'aimerais vraiment te prier que de plus en plus, nous voyons que c'est toi qui es solide et sûr et que nous n'avons pas à craindre les circonstances parce que tu les permets comme l'apôtre Paul qui était en prison et qui a été un témoin fidèle là où tu l'as placé. Seigneur, nous te remercions parce que nous ne sommes pas jetés dans la vie en cherchant à nous dépatouiller tout seuls, en cherchant à vivoter. Non, Seigneur, tu nous donnes Christ qui est notre vie, notre richesse. Oh, quelle grâce, Seigneur, de savoir que tout nous vient de lui et nous pouvons tout aller chercher en lui. Jamais il refusera de nous donner ce dont nous avons besoin pour le glorifier. Christ est notre richesse. Ô Seigneur, que cette vérité s'imprègne dans notre cœur de telle manière à ce que nous vivions un amour profond les uns pour les autres et que tous ceux qui sont autour de cette église ici à Peseux puissent saisir que nous nous aimons les uns les autres et désirent t'aimer aussi. Dans le beau nom de Jésus-Christ, Amen.